franceinter.fr.
Bonsoir à tous. La région parisienne dans du coton et tout doucement, la neige ne tombe plus, mais le verglas sera bientôt là. Évitez de prendre le volant, dit la ministre. Pas de transport scolaire demain dans 15 départements. La nationale 118 est toujours coupée, encombrée d'autos abandonnées. Nous y serons dès le début du journal. Ni statut, ni langue, ni fiscalité. Emmanuel Macron ferme les portes en Corse. Les nationalistes regrettent une occasion manquée. Au sommaire également ce soir, les mauvais points de la Cour des comptes. Trois ministères pour le SPD dans l'accord du gouvernement signé avec la CDU de Merkel. George Baselist est exposé à Bâle. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, ce soir, on parle de directive anticipée, Sébastien. Vous savez ce que c'est ? Le fait d'écrire, tout simplement, pour que ce soit bien clair, que vous ne voulez pas être réanimé dans le seul but de prolonger votre vie artificiellement. C'est légal, le médecin ne peut pas s'y opposer. Ça permet à votre famille de ne pas avoir ce genre de décision à prendre. Et pourtant, 11% seulement des gens ont écrit ces directives. Preuve que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. 01 45 24 7000.
France Inter.
12 cm de neige à Paris, 13 même à Roissy et Orly, et voilà toute l'Île-de-France paralysée ou presque. Ce qui n'est que la routine dans les régions qui en ont l'habitude et où l'on rit gentiment de Paris devient à chaque fois un calvaire pour les non-initiés que nous sommes. L'épisode d'hier n'échappe pas à la règle. Le plus important en 30 ans, selon la maire Anne Hidalgo, avec un point noir dans ce grand manteau blanc, la nationale 118 qui sert à entrer et sortir de la capitale par le sud-ouest, fermée hier soir, mais des centaines d'autos s'y trouvaient déjà. Et près de 2000 personnes y ont passé la nuit. Qu'en est-il ce soir ? Bonsoir Solène Cressant.
Bonsoir.
Vous êtes à Bièvre, Solène, en contrebas de cette nationale qui n'est toujours pas rouverte à la circulation 24 heures après.
Sur cette 2x2 voies bien connue des Franciliens, il faut s'imaginer un calme totalement inhabituel. Plus personne de bloqué dans sa voiture, mais sur les côtés ou au milieu, des véhicules échoués, abandonnés et même des piétons comme Jérôme.
Je cherche à rejoindre la voiture qui est stationnée sur le bord de la route dans le sens province, Paris.
La voiture de sa compagne abandonnée hier soir puisque bloquée, elle est à 3 km d'ici, juste derrière, bonnet rouge sur la tête et d'un pas décidé, on croise Philippe.
Je vais récupérer ma voiture au bout là-bas. Je travaille à Champlain, je passe toujours par là, je connais. Et je me suis arrêté là parce que j'aurais pas pu remonter.
Philippe est garé en contrebas de la nationale. S'il a été prévoyant, il est un peu énervé.
Mais c'est la galère quand même. Hier soir, on n'a rien vu. Pas de flics, pas de dessalage, rien. Rien de chez rien. Tout le monde se démerdait comme il pouvait.
Bien équipé, en train de chercher son équilibre, Juliette, elle, rentre du travail.
Regardez là, j'ai des bonnes chaussures, j'ai chaud, il n'y a pas de problème. J'ai fait 9 km ce matin pour aller à mon boulot.
Et vous êtes garé où ?
Là, juste à Bièvre, parce que ça bloquait ce matin là. Donc je vais rechercher ma voiture et je rentre chez moi.
Juliette a le sourire, elle espère juste ne pas avoir à refaire cette promenade de santé, comme elle dit, demain matin.
Solène Cressant et Laurent Groux en direct de Bièvre, merci à tous les deux. Évitez au maximum de prendre le volant. Le message du préfet et de la ministre des Transports était clair. Consigne respectée ce matin et ce soir. Bonsoir Marion Aquilina.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Au PC Mobilité de Radio France, on est loin des plus de 700 km de bouchons d'hier soir.
Oui, c'est ça, puisque globalement en Île-de-France, vous roulez nettement mieux qu'hier, puisqu'on relève seulement 10 km de bouchons en cumulé. Les points où le trafic reste quand même ralenti ce soir, c'est toujours sur l'autoroute A11 en direction de Paris, à hauteur de Chartres, où vous passez une heure dans les embouteillages sur 10 km. Autre perturbation au sud de Paris, c'est sur l'A10 vers la capitale. En quittant Orléans, il faut compter une demi-heure dans les ralentissements. En fait, c'est jusqu'à la jonction avec l'autoroute A19. Et puis le point noir dont on a effectivement beaucoup parlé hier et aujourd'hui, c'est cette nationale 118 au sud-ouest de Paris. L'axe reste fermé dans les deux sens, entre Sèvres et Marcoussis, jusqu'à demain midi.
Un mot, Marion, des trains.
Et bien là, pour le coup, il faudra encore anticiper des perturbations pour demain. En Ile-de-France, sur le réseau transilien, il faut prévoir 2 trains sur 3 en moyenne, notamment pour les lignes de transilien J, L, P et U. Et pour les trains et TGV qui vont vers l'ouest, il faut compter entre une demi-heure et une heure et demie de retard.
Marion Aquilina au PC Mobilité de Radio France. Paris sous la neige et demain, le verglas avec la chute des températures prévues par Météo France. On verra ça à la fin du journal. Grosse couche de poudreuse aussi autour d'Orléans, de Chartres, 20 cm dans la Beauce. Moitié moins en Mayenne. Reportage dans le nord du département. Gilda Mingui.
En empruntant la Nationale 12 depuis Mayenne, c'est à partir de Champéon que la neige est bien visible dans les champs. Et plus on s'approche de Préampaille, plus le manteau est épais. On s'arrête à Javron-les-Chapelles, 8 cm, nous dit Daniel, botte au pied. Pour aller chercher son pain, Josiane, elle, a enfilé ses après-ski.
Ah, elle ne sert pas souvent, non, parce qu'on a pas beaucoup de neige dans le secteur, quand même. Là, c'est vraiment exceptionnel, quoi.
Ça va, ça glisse pas trop ?
Non, non, ça a été dégagé quand même assez bien, quoi.
On quitte la N12 pour s'enfoncer dans la campagne. La prudence est de rigueur sur les plus petites routes. Et nous voilà à Saint-Pierre-des-Nids, dans les Alpes-Mancelles. André y est chef d'entreprise, il n'a pas voulu prendre de risques.
J'ai demandé à mon personnel de ne pas venir travailler aujourd'hui, parce que j'ai pas envie que les véhicules utilitaires... Avec un véhicule utilitaire, c'est toujours plus compliqué de circuler. Ils sont chargés, il y a tout notre matériel professionnel dedans. Donc j'ai préféré ne pas casser les véhicules, et on n'est pas une journée près, et les clients le comprennent de toute façon.
À la mi-journée, sur la place de l'église, Valérie enlève l'épaisse couche de neige sur sa voiture à l'aide d'un carton.
Ben oui, vous voyez, une grosse couche. On a bien été enneigés, mais les saleuses sont passées chez nous. C'est pas comme à Paris. Apparemment, on nous a bien déneigés. Et ça, je trouve ça très bien.
Et après la neige, c'est le verglas qui risque de perturber les déplacements dans certains secteurs.
Oui, verglas annoncé aussi en région parisienne. Gilda Mingui, France Bleu Mayenne pour ce reportage. Du côté de ceux qui apprécient ces chutes de neige, les skieurs qui ont dévalé la butte Montmartre, les touristes qui se photographient devant la Tour Eiffel enneigée et les élèves parfois contraints de rester à la maison encore demain dans une quinzaine de départements faute de cars scolaires. Au collège de Neuillé-Pompierre en Touraine, 553 élèves, mais seulement 30 présents aujourd'hui. Karine Debatz, la principale.
On a donc des enseignants, hein. On a presque tous nos enseignants qui sont venus donc au fur et à mesure, hein, pas voilà avec un peu de retard. Mais on a 90% de nos élèves qui sont transportés. Donc comme on n'a pas de transport scolaire, on n'a que les élèves de Neuillé qui sont venus en fait. La première heure, on les a répartis par niveau et ils ont été pris en charge par des enseignants. Et bah, ce matin, voilà, ils faisaient des batailles de boules de neige dans la cour. Eux, ils sont contents, oui, ils sont contents. Alors les parents nous appellent pour savoir s'ils les mettent ou pas au collège. Hein. Donc nous, on dit bien que le collège est ouvert et qu'on les accueil. Mais voilà, non, ils n'ont pas l'air malheureux.
Et ce sera peut-être pareil demain. Entretien signé Simon Soubieux de France Bleu Touraine. Rendez-vous à 19h20 pour toutes les dernières prévisions météo.
Un petit oui et deux non. Voilà ce que dit Emmanuel Macron aux Corses.
C'est ça en résumé. Et ça ne plaît pas aux dirigeants nationalistes qui n'ont pas voulu déjeuner avec lui ce midi comme prévu et qui parlent d'occasion manquée ce soir. Bonsoir Cyril Graziani.
Bonsoir.
Le président est d'accord pour mentionner la Corse dans la Constitution, mais pas pour une co-officialité de la langue, ni pour un statut de résident.
Et d'emblée, Emmanuel Macron a douché les espoirs des élus nationalistes arrivés ensemble en masse pour montrer leur unité.
Cette conviction, c'est que la Corse est au cœur de la République.
Et comme on le pressentait, il n'a pas accédé aux principales revendications de Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamogne, notamment, vous le disiez, le statut de résident.
Il serait totalement contraire, et à notre Constitution, et à notre droit européen.
La co-officialité pas plus pour le chef de l'État qui préconise le bilinguisme sur une fiscalité spécifique pour la Corse, là encore hors de question.
Plus il y aura de fiscalité transférée, moins il y aura de dotation. Être autonome, c'est assumer ce choix. Comment souhaiter une autonomie fiscale et en même temps demander encore plus à la solidarité nationale ?
Le chef de l'État accepte néanmoins que la Corse soit mentionnée dans la Constitution, mais il appelle les élus insulaires à lui faire des propositions d'ici un mois, maigre lot de consolation.
Comme prévu, Cyril, les nationalistes ne sont pas satisfaits de ce discours.
Et encore une fois, tous ensemble, ils ont vivement réagi. D'abord, sur la matinée de commémoration d'hier et le discours très ferme d'Emmanuel Macron, Gilles Simeoni y parle d'esprit de vengeance de la part du président. Puis, revenant sur le discours de l'après-midi, le président de la collectivité de Corse affirme qu'il a été en deçà des enjeux.
Le président de la République aurait pu, à l'occasion de ce discours, s'affirmer comme l'homme d'État capable à la fois d'enraciner la paix, de construire la réconciliation, de définir un cadre pour un dialogue serein et apaisé. Nous considérons donc que c'est une occasion manquée.
Emmanuel Macron voulait ouvrir une nouvelle page apaisée et ambitieuse en Corse. Ce soir, entre le président français et l'exécutif corse, la rupture est consommée.
Cyril Graziani en direct de Bastia avec Fabien Gosset pour la fin de ces deux jours du chef de l'État sur l'île. Emmanuel Macron qui sera l'invité du président américain à la Maison-Blanche autour du 24 avril, la date se précise. Ce sera la première visite d'État d'un dirigeant étranger sous la présidence Trump.
Et avant ce voyage, il faut affronter le rapport annuel de la Cour des comptes.
La liste des exemples de mauvaise gestion de l'argent public, et il y en a dans tous les domaines. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir Sébastien.
Premier coup de règle sur les doigts pour les sociétés de sécurité privée.
Insuffisamment contrôlées, la Cour des comptes demande à l'État de reprendre la main et de muscler l'accès à la profession des vigiles sans formation ni carte professionnelle, embauchés par exemple pour sécuriser une gare parisienne. Des palpations bâclées en sous-effectif à l'entrée des stades, des casiers judiciaires avec outrage, violence conjugale et usage de stupéfiants qui n'empêchent pas aujourd'hui l'obtention de la carte professionnelle. Alors que l'État délègue de plus en plus de missions à ces entreprises de sécurité privée, la Cour des comptes demande à l'État de contrôler et de réguler sérieusement le secteur.
Autre mauvais point, Laurent, les nouveaux compteurs Linky d'Enedis, chers et pas si utiles que ça aux consommateurs.
Alors une bonne opération pour le fournisseur d'électricité, mais pas forcément d'économie d'énergie pour le consommateur à la clé. La Cour des comptes dénonce l'absence d'informations concrètes sur le compteur qui permettrait de moduler ses dépenses d'énergie en connaissant sa consommation en temps réel. Le déploiement de Linky va pourtant coûter plus de 5 milliards d'euros répercutés sur les factures des usagers dès 2021. La Cour des comptes demande donc que le consommateur bénéficie d'un juste retour pour le service qu'il va payer.
Les piscines publiques aussi coûtent beaucoup trop cher aux communes.
Avec un déficit constaté de 640 000 euros en moyenne par municipalité contrôlée, des collectivités incapables, écrit la Cour des comptes, de mesurer les coûts réels des fonctionnements de leurs piscines. La Cour des comptes demande aux municipalités d'avoir une véritable stratégie de gestion et de tarifs, avec par exemple un regroupement des frais au niveau des intercommunalités ou encore la fin de la piscine gratuite pour les scolaires, pour les clubs ou encore les associations.
Le rapport estime aussi, merci Laurent Kramer, que le gouvernement ne fait pas assez la chasse aux cotisations. 6 à 25 milliards d'euros échappent ainsi à l'État, selon les magistrats. Tous les détails de ce rapport sont sur franceinter.fr. Le logeur des djihadistes du 13 novembre sera fixé sur son sort mercredi prochain. Jawad Ben Daoud, jugé pour recel de malfaiteurs terroristes, il a redit cet après-midi qu'il ne savait pas que c'était des terroristes. Le parquet demande 4 ans de prison.
Il est 19h12, Angela Merkel devrait donc empiler pour un quatrième mandat.
La chancelière allemande a fini par trouver un accord avec les sociaux-démocrates après 4 mois d'impasse.
Le contrat de coalition que nous avons conclu permet la mise en place d'un gouvernement stable et efficient dont notre pays a besoin et que beaucoup dans le monde attendent. Nous voulons améliorer la vie de nos concitoyens, soutenir notre économie pour relever les défis de l'avenir, pour que notre pays conserve sa compétitivité, et nous voulons aussi renforcer la cohésion sociale de l'Allemagne.
Un accord, mais au prix de plusieurs concessions. Pascal Thibault, le SPD devrait avoir 3 ministères, dont les finances et les affaires étrangères.
Le premier gouvernement SPD dirigé par une chancelière chrétienne-démocrate. Pour ce responsable du quotidien populaire Bild Zeitung, comme pour d'autres commentateurs, les sociaux-démocrates ont tiré leur épingle du jeu malgré leur score historiquement bas aux dernières élections. Il est vrai que cet accord était une question de survie politique pour Angela Merkel. De nouvelles élections auraient constitué un aveu d'échec. La chancelière savait aussi qu'elle devait lâcher du lest pour permettre cet accord, mais aussi pour amadouer la base du SPD, peu emballée par une nouvelle grande coalition et qui devra se prononcer sur le texte d'ici début mars. Le SPD obtient des compromis, les sociaux-démocrates conservent le ministère des Affaires étrangères, les Affaires sociales et arrachent aux conservateurs les finances post-stratégiques. L'accord de gouvernement réjouira Emmanuel Macron, il prévoit que les prochaines années seront placées sous le signe de la relance de l'Europe. Une partie des réformes du président français sont approuvées par le texte. Martin Schulz s'en est félicité et a salué le retour de l'Allemagne sur la scène européenne aux côtés de la France. Berlin, Pascal Thibault, RFI pour France Inter.
C'est l'un des pires bilans de 7 ans de guerre en Syrie. Plus de 120 morts ces 3 derniers jours et le régime syrien continue de bombarder l'enclave rebelle de la Ghouta orientale près de Damas. 400 000 habitants y sont assiégés depuis 2013. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ouvre par ailleurs une enquête sur un possible recours aux armes toxiques par les forces de Bachar el-Assad. Des barils largués par hélicoptère sur les provinces d'Idlib et de la Ghouta notamment dimanche dernier. Le régime utilise vraisemblablement du chlore en ce moment, dit le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, ce qui violerait les lois internationales, selon Nadim Houri de Human Rights Watch, au micro de Christian Chéneau.
Le chlore, et il y a eu beaucoup d'attaques déjà documentées sur l'utilisation du chlore, en soi n'est pas une substance interdite par la Convention contre les armes chimiques. Par contre, donc, l'utilisation du chlore pour des fins militaires, cette utilisation-là est interdite. Si c'est démontré dans ce cas, et on l'a démontré, nous et d'autres, dans des cas précédents, la Syrie sera en violation de ses obligations internationales sous la Convention contre les armes chimiques. Le chlore a été utilisé depuis maintenant 2014 à maintes reprises. Il a peut-être eu moins d'attrait entre guillemets médiatique, parce que le chlore tue moins que le sarin. Mais ça a des effets aussi, ça affecte des centaines de personnes. Et il y a beaucoup de gens qui en meurent, notamment les personnes les plus faibles, les enfants, les vieux, des gens avec des maladies existantes.
Les Jeux Olympiques, décidément très diplomatiques en Corée du Sud. La sœur de Kim Jong-un profitera des Jeux de Pyeongchang qui débutent vendredi pour venir chez le voisin du Sud, et ce sera une première. Elle devrait même remettre une lettre de son frère, le dirigeant de la Corée du Nord, au président sud-coréen.
Il vient de décrocher sa deuxième étoile au Michelin.
Mais sa cave est vide. Près de 200 bouteilles volées la nuit dernière à l'auberge du Père Bise à Talloire, au bord du lac d'Annecy. Le restaurant de Jean Sulpice, Château Yquem, Pétrus, Cheval Blanc. Certains clients venaient du bout du monde pour des millésimes des années 50. On est assuré, mais la valeur est inestimable, dit Magali Sulpice, son épouse et sommelière.
C'est une perte sentimentale, c'est une perte historique. C'est une partie de l'auberge qui part en fumée. On a vraiment beaucoup d'émotions. Il nous a été très difficile à tout le monde de descendre à la cave et se rendre compte petit à petit de tous les casiers qui avaient été très méticuleusement vidés. Ce sentiment de patrimoine qui part, c'est vraiment l'histoire. L'histoire de l'auberge, mais aussi l'histoire de ces maisons, de ces vignerons qui sont derrière chacun de ces domaines, qui ont œuvré dans ces années-là. C'est vraiment du gâchis, on est écœuré, tout simplement, dégoûté.
Magali Sulpice avec Clotilde Brunet de France Bleu, Pays de Savoie. Le restaurant est ouvert malgré tout ce soir. On termine avec l'un des géants de l'art contemporain, Georges Baslitz, connu pour ses personnages peints la tête en bas. Il a 80 ans et pour l'occasion, la fondation Beyeler de Bâle lui consacre une grande rétrospective. Plus de 80 toiles, une douzaine de sculptures. L'occasion de mesurer le parcours artistique de cet artiste, souvent scandaleux, Isabelle Pasquier.
Il y a l'effroi face à ces corps déchirés, pendus dans le vide. Toute l'œuvre de Baslitz est traversée par les tragédies du XXe siècle. Baslitz est né sous le nazisme, il a grandi sous le communisme et ses toiles, ses sculptures le libèrent de ce passé, de cette culpabilité qui le hante. Coincé entre le réalisme et l'art abstrait, Baslitz invente une troisième voie. Il peint tout à l'envers. Un miroir saisissant du chaos du monde. Rencontre avec Baslitz, un géant au corps de bûcheron et aux yeux clairs et très ironiques.
Je n'ai pas retourné le monde, j'ai juste mis les tableaux à l'envers. J'ai toujours exprimé mes doutes vis-à-vis de la tradition en allant à l'encontre de ce qui se faisait. Dans chaque tableau s'exprime une convention, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière, etc. Et si vous contredisez tout cela en tant qu'artiste, vous êtes sur le bon chemin. C'est ça le plus important, ne pas être social. Sinon, vous n'aurez qu'à devenir ministre de la Culture.
Dans l'exposition, une toile qui a fait scandale en 63, un gamin au visage ravagé qui se masturbe, un portrait à peine déguisé d'Hitler. À l'époque, l'Allemagne n'a pas du tout supporté. Et puis cette sculpture, les femmes de Dresde, c'est toute la violence faite aux femmes qui se concentre sur ces visages mutilés, en bois sculpté à la tronçonneuse.
L'exposition Baslitz, c'est à Bâle, à la Fondation Beyeler et au Kunstmuseum, jusqu'au 29 avril. Enfin, qui sont les écrivains francophones les plus lus en 2017? Fred Vargas, en tête du classement de l'Express, classement annuel, avec son polar Qu'en sort la recluse, puis le Goncourt, Éric Vuillard pour L'ordre du jour, et l'auteur à succès, Guillaume Musso, pour son thriller Un appartement à Paris. Vous savez tout.
Merci beaucoup Sébastien Paour. On se retrouve demain dans un instant. Le téléphone sonne. On parle des directives anticipées ce soir. Rédiger, écrire que vous ne voulez pas être réanimé dans le seul but de vous maintenir en vie artificiellement. Des directives qui sont encouragées, souvent plébiscitées par vous, mais vous êtes 11% seulement à les avoir écrites. On essaie de comprendre pourquoi et d'en débattre ensemble.
La météo avec Région Job. Souriez, des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous. Sur regionjob.com.
Sébastien Léa, ça vide grand froid pour cette nuit alors?
Oui Fabienne, les températures vont chuter cette nuit avec par endroits des minimales glaciales, notamment là où les sols sont encore enneigés. Il fera moins 5 degrés à Paris et Alençon, moins 6 degrés à Tours et à Brive, moins 8 degrés pour Reims et Orléans. Localement, le mercure descendra même sous la barre des moins 10 degrés. Ces températures froides vont également rendre les chaussées encore plus glissantes par regel des sols. L'Île-de-France reste d'ailleurs en vigilance orange, neige, verglas. Demain après-midi, les maximales gagneront quelques degrés. Prévoyez 2 degrés à Bourges et Clermont-Ferrand. 4 degrés pour Mulhouse et Biarritz, 6 degrés à Lille, 8 pour Brest et Nîmes, et on ira jusqu'à 12 degrés entre la Corse et la Côte d'Azur.
Et sinon, retour des éclaircies, au moins pour la moitié nord en tout cas.
Oui, des éclaircies vont se développer, s'élargir entre les frontières belges, l'Alsace jusqu'en Sologne, au Pays de la Loire et à la Bretagne. Plus au sud, les résidus de la perturbation apporteront encore quelques flocons en matinée, notamment au sud de la Garonne. Les sols pourraient d'ailleurs être blanchis par endroits. La couche nuageuse va un peu se morceler l'après-midi. Ambiance nettement plus agréable autour de la Méditerranée, avec de larges périodes ensoleillées, un peu de vent de composante ouest, mais tout de même un risque d'averses neigeuses sur le Mercantour, au-dessus de 1000 mètres d'altitude.
Sébastien Léa sur France Inter, merci.